Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Xavier, est-ce qu'il y a beaucoup d'activités du côté de l'Union européenne sur les questions énergétiques ?
Oui, il y en a énormément et pas plus tard que mercredi dernier où il était question d'un Airbus de la batterie électrique. C'était l'enjeu d'une réunion entre la Commission européenne et des industriels à Bruxelles. Bonjour Angélique Pall.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue en studio avec nous. Vous êtes géographe, chercheur à l'UMR Prodig de diverses universités, dont Paris 1. Vous venez aussi de publier un article sur la géopolitique des infrastructures énergétiques en Europe. C'est dans l'édition d'automne de la revue internationale et stratégique. Alors, je le disais, un Airbus de la batterie pour concurrencer la Chine et qu'il serait le symbole d'une union de l'énergie et d'une politique de transition ambitieuse. C'est le sujet, en effet, qui occupe le devant de la scène cette semaine, alors qu'en arrière-plan, l'Union européenne multiplie les réunions sur les questions énergétiques, notamment à Tallinn fin septembre, sur l'interconnexion électrique. Alors, intégration, efficacité, renouvelable, stockage. L'Union européenne a bien son agenda interne sous la pression de la COP21 et en perspective de la future COP de Bonn. Mais les lignes électriques, pipelines et gazoducs changent aussi en fonction du contexte géopolitique. Tension avec la Russie en premier lieu, ce qui a conduit à une diversification des approvisionnements. Alors, cette question énergétique, longtemps perçue comme prérogative nationale, tend-elle à devenir aujourd'hui un véritable facteur d'intégration et d'unification? Et peut-être d'abord, Angélique Pall, concernant l'intégration électrique et l'unification, il y a donc eu ce sommet informel de Tallinn dans lequel le but était de renforcer ce qu'ils appellent l'interconnexion européenne. Cette interconnexion électrique est déjà très bonne finalement. Il y a quasiment plus de péninsules électriques, ce qu'on appelle les péninsules électriques.
Alors oui, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle un mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Pour vous donner une idée, entre 2014 et 2020, le montant alloué à cette interconnexion est d'autour de 5 milliards d'euros. Pas pour financer des infrastructures en tant que telles, mais pour faire des études de faisabilité. L'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle des plans d'interconnexion d'intérêt commun, avec pour objectif de renforcer donc les infrastructures d'interconnexion électrique et gazière en Union européenne qui sont mises en place par les gestionnaires de réseaux d'électricité. Et donc l'idée était d'avoir une grande plaque intégrée énergétique européenne. Alors par exemple, si vous prenez le cas des pays baltes, oui, qui étaient raccordés initialement plutôt au réseau russe, héritage de la guerre froide, il y a eu ces dernières années toute une série d'initiatives pour les raccorder à leurs voisins européens. Et dernièrement, par exemple, les interconnecteurs qu'on appelle Litpol et Nordbalt, qui connectent ces trois pays à la Pologne et à la plaque scandinave, ont été mis en ligne, disons, en début 2016.
C'est pour ça que je parlais de ces fameuses péninsules électriques, c'est l'expression que vous employez dans cet article. Donc on pourrait dire que l'unification européenne du réseau électrique est plutôt très bonne. Et cependant, il y avait un chiffre qui m'avait frappé. En 2015, dans le plan d'unification d'union énergétique, l'Union européenne prévoyait 10% d'interconnexion électrique, ce qui veut dire qu'on en est encore très loin finalement. Qu'est-ce que ça veut dire 10% d'interconnexion électrique alors qu'il n'y a plus de péninsule électrique?
Alors l'idée, c'est que chaque pays puisse échanger avec ses voisins au moins 10% de l'électricité qu'il produit.
Et là, on en est très loin encore.
Alors ça dépend. Si vous êtes, par exemple, la Suisse, vous êtes au cœur de la plaque électrique européenne, là, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous êtes l'Espagne ou le Portugal, là, vous êtes plus géographiquement isolé sur le réseau. Et donc, pour des questions de contraintes, soit politiques, soit physiques, typiquement, le passage des Pyrénées est un grand sujet en termes d'interconnexion électrique, là, pour le coup, la question peut se poser.
Et c'est d'autant plus intéressant que cette question, du renversement des flux d'approvisionnement et de l'interconnexion des flux d'approvisionnement, elle s'est posée et elle se pose encore dans le cas du réseau de gaz en Union européenne, ce qu'on appelle le reverse flow, c'est ça?
C'est ça. Alors, en fait, le réseau gazier européen, c'est un héritage de la guerre froide. L'idée, c'était de faire passer du gaz russe, le gaz rouge, d'est en ouest. Et l'infrastructure structure, elle est héritée de cette volonté. Et aujourd'hui, ce que l'Union européenne essaye de faire, c'est deux choses. D'abord, de faire couler le gaz dans l'autre sens, éventuellement, d'ouest en est, pour que les réserves des pays d'Europe de l'Ouest puissent éventuellement venir en aide aux pays d'Europe de l'Est en cas de rupture d'approvisionnement, et puis d'avoir des infrastructures nord-sud entre pays d'Europe, de la plaque d'Europe de l'Est, pour pouvoir, pareil, irriguer si besoin était en cas de rupture d'approvisionnement.
Oui, parce qu'il faut rappeler évidemment que c'est un gaz qui provient de Russie. Je crois qu'un des derniers chiffres, celui de 2016 du l'ONG Bankwatch, c'était 35% du gaz importé européen qui venait de Russie. Il y a eu aussi ces dernières années ce qu'on a appelé la guerre du gaz avec la Russie, avec des épisodes de coupures répétées entre l'Ukraine et la Russie. Et on a vu aussi pendant ce temps-là une multiplication des projets de pipeline européens. J'en ai compté 6 entre les Nord Stream, les Stream, ceux qui devaient passer par la Turquie, qui ont été arrêtés. Est-ce que, de ce point de vue-là, l'Europe a réussi à sécuriser et diversifier ses approvisionnements gaziers ?
Alors, c'est une bonne question. Le 40% aujourd'hui du gaz que l'Europe importe de Russie transite encore par la Pologne. Par l'Ukraine.
Par l'Ukraine.
Et sur fond de désaccords plus ou moins latents entre l'Ukraine et la Russie sur notamment le coût de ce transit. La Russie a une stratégie de diversification, en fait, de ses pipelines pour éviter, pour contourner la Pologne. C'est les fameux projets Nord Stream et South Stream qui, aujourd'hui, est en pause.
Qui devait passer par la mer du Nord et par la Turquie.
Exactement. Et donc la Russie pousse pour que à la construction de pipelines qui lui permettent de contourner en fait ce pays de transit un peu gênant pour elle.
Et de ce point de vue-là, on a aussi vu certains pays qui voulaient prendre aussi au sein de l'Union européenne leur indépendance énergétique. Vous en avez parlé, c'est le cas de la Pologne. Pologne qui dépend à 80% du gaz russe, avec une stratégie, là on l'a vu, un peu tous azimuts, l'ouverture d'un terminal pour permettre l'approvisionnement de gaz par le Qatar, premier terminal pétrolier liquide pour la Pologne, avec une stratégie de stockage très importante. Est-ce que c'est une stratégie très très originale au sein de l'Union européenne, ces stratégies d'indépendance quasi totale gazière de la Pologne?
Est-ce que c'est original? Ça, c'est une bonne question. En revanche, c'est, disons que c'est relativement inédit au sens où la Pologne a vraiment une stratégie d'émancipation énergétique vis-à-vis du voisin russe. Il y a ce terminal gazier ouvert en 2009. Les premiers mètres cubes de gaz américain sont arrivés
en
2017.
Avril,
en juin, il me semble.
En juin.
Bon, là aussi, symboliquement, c'est assez fort. Et la Pologne a pour objectif à long terme de devenir une espèce de hub du gaz en Europe de l'Est, avec des infrastructures de stockage assez importantes, sachant que son contrat d'approvisionnement avec Gazprom se termine en 2022. Et donc l'idée derrière, c'est de dire, d'ici 2022, au moment où on renégociera les contrats, il faut avoir un degré d'indépendance vis-à-vis de la Russie suffisamment important.
Et en tout cas, l'Union européenne, elle, en visite à Kiev le 15 septembre, a dit que, de toute façon, la poursuite de l'approvisionnement via l'Ukraine après 2019 également restait une priorité, c'est ce qu'on verra. Puisqu'on arrive vers la fin de cet entretien, j'évoquais la transition énergétique, donc qui est de nouveau un projet important de l'Union européenne. Il y a des fonds très importants qui sont alloués, je ne sais plus si c'est 400 milliards, j'ai plus le chiffre en tête. Pour vous, c'est plutôt un facteur de crispation nationale ou d'intégration? Je prends deux exemples, il y a des débats très importants au Parlement sur la manière dont on va arriver à baisser les gaz à effet de serre d'ici 2020, d'ici 2030. Et en même temps, on voit aussi de nouvelles alliances qui se créent sur la base de la transition énergétique, notamment alliance éolienne, par exemple.
Alors oui, il y a des structures de coopération assez fortes qui existent sur cette question de la transition énergétique. Vous évoquez ce que vous appelez l'alliance éolienne et qui est un projet en fait d'interconnexion et de construction de fermes éoliennes offshore en mer du Nord.
Oui, je précise qu'elle ne s'appelle pas l'Alliance éolienne, c'est moi
non.
qui l'appelle comme ça, oui.
Oui, mais c'est pas, ça peut être une image intéressante. Et En revanche, sur ces questions de transition énergétique, il y a aussi des mécanismes de crispation, notamment parce que une partie de cette transition, elle est menée par des acteurs techniques, que derrière, il y a aussi un niveau politique de prise de décision et que les acteurs techniques et les acteurs politiques ne se parlent pas toujours très bien. C'est l'exemple du cas allemand, où par exemple, la sortie du nucléaire allemand à les visées de transition énergétique s'est faite sans réelle considération des réseaux. Donc vous avez vos centrales allemandes nucléaires dans le sud du pays qui devaient être remplacées par de l'éolien offshore plutôt en mer du Nord. Les interconnecteurs électriques n'existaient pas au moment de la prise de décision et donc on a saturé en partie les réseaux polonais et tchèques puisque interconnexion oblige, l'électricité passait par les frontières.
Oui, un fait inverse à celui escompté, ce qui fait qu'au lieu de parler d'intégration européenne, ou avant en tout cas, il faudrait penser aux synergies entre ingénieurs et groupements politiques. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Angélique Pall, géographe et chercheur à l'UMR Prodig. Merci.